France Inter, franceinter.com.
Et bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. Quel est le titre, Nathalie?
Moi je sais.
C'est quoi?
C'est Eau de mon amour.
C'est formidable. Avec à la technique Henri Bérec aujourd'hui et assisté de Jean-Baptiste Audibert et Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestuggia qui réalise cette émission. Une petite humeur, allez, une humeur ferroviaire, enfin une bonne nouvelle. Pendant que les voitures et les camions vont et viennent au rythme des mouvements de yo-yo des prix à la pompe, le fret ferroviaire, lui, se porte très bien, merci. Bon, attention, je ne parle pas de la France, mais des États-Unis. Alors, là vous voyez, l'essence pas chère, les limousines, les routes tirées au cordeau, les interminables trains de marchandises avec leurs klaxons rauques. Retour en arrière. Il était une fois dans l'Ouest des pionniers qui croyaient que le cheval de fer était la plus noble conquête de l'homme blanc. Ils embauchent des milliers de Chinois pour percer des tunnels, tailler les montagnes et boulonner les rails sur la prairie. Les Indiens et les bisons s'inquiètent. Bon, ils n'ont pas tort, voyez-vous, car les visages pâles ont dans leur carton les plans d'une civilisation qui n'a pas besoin d'eux. La carabine à répétition leur donnera tout à fait raison. Fin du XXe siècle, distancé par la voiture, le camion et l'avion, le chemin de fer américain est à l'agonie. Il se traîne sur les rails fatigués des montagnes de l'Ouest. Dans les années 80, le président Carter sort un remède de cheval, la déréglementation sauvage. Guerre des prix tous azimuts, tous les coups sont permis. La bataille du rail aux États-Unis laisse peu de survivants. Alors on laisse tomber les passagers. Plus question de faire dans la dentelle, on va transporter pétrole, charbon, minerais livrés à la tonne. Et le cheval de fer, peu à peu, reprend du poil de la bête. Année 2000, guerre d'Irak, ouragan, etc., flambée des prix du pétrole, ça donne des ailes au chemin de fer. Alors que nous, en Europe, on cherche encore une autre voie au tout camion pour faire circuler les marchandises dans la grande valse des étiquettes du marché unique. Mais si, vous savez bien, elles sont belles, mes tomates de Hollande, épluchées en Italie et vendues en France. Elles sont fraîches, mes crevettes du Danemark, décortiquées en Tunisie, etc., etc. Nous, en Europe, on aime bien discuter avant d'agir. Et en attendant l'argent du Turin Modane, on continue de suffoquer parmi les files de camions dans les vallées alpines, sur les routes de la Baltique, à la Méditerranée et ailleurs. Bref, le fret ferroviaire se meurt à petit feu. Les docteurs se regardent en chien de faïence au chevet du malade et les sociétés d'autoroutes privées soufflent sur les braises. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, 1300 millions de Chinois rêvent de jouer à la conquête de l'Ouest. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils n'auront besoin de personne pour boulonner les rails. Alors je vous pose la question, ça vous dit à vous de jouer le rôle des bisons? On se dit avec Nathalie, vivement vraiment le ferroviaire, le fret ferroviaire comme dans ce pays, hein, c'est pas encore gagné, hein, cette histoire.
Si on prend encore des camions, c'est que le pétrole n'est toujours pas assez cher.
Et hein. C'est à peu près ça. Nathalie, ça va être l'actualité avec vous de l'environnement, de quoi va-t-on parler?
Bon, du Père Noël évidemment.
Bon, très bien.
Et puis de la soi-disant publicité verte.
Ah oui, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se repeignent en vert, c'est ce que vous voulez nous dire. C'est parfait.
C'est à la mode.
Je vous emmènerai faire un petit tour dans le Val d'Azun, dans les Hautes-Pyrénées. Vous allez voir, c'est très très beau, à la fois avec Robert Arnaud, une voix que vous connaissez, puis un homme qui est éleveur qui s'appelle Jean-Pierre Pommiès. Donc là, on va partir prendre de l'air. Et dans quelques instants, ça va être Jean-Marie Pell qui va nous parler de l'ergot de seigle. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti.
We all will die. There is no right. There is no right. This circle.
hard to live our lives in harmony. For fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core.
Allez, allez, c'est le moment à table. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
La lettre E comme ergo aujourd'hui.
Oui, ergo de seigle. Alors nous nous replongeons dans le Moyen-Âge, disons en gros 10e, 11e, 12e siècle. Mmh. Il se passe des choses terribles. Quand les années sont pluvieuses, les récoltes sont mauvaises. Alors les paysans, pour faire beaucoup de farine, ils ramassent tout ce qui traîne dans les greniers. Et sans le savoir, ils ramassent à la fois les grains de seigle, parce qu'on cultive beaucoup le seigle à cette époque, mais aussi un petit parasite qui est un champignon qui remplace le grain dans des épis de seigle qui le contiennent. Et ils moulent tout ça en même temps. Alors ça donne une farine ergotée. Et cette farine ergotée, les malheureux, ils la mangent. Alors ça donne une effroyable maladie. Une effroyable maladie qui s'appelle le feu sacré. Cette maladie se manifeste par des gangrènes aux membres qui vont jusqu'à ce que les gens perdent leurs membres.
Ah oui.
Alors on dit ce sont des démembrés, oui. C'est le démembrement.
On se retrouve en pièces détachées. Avec...
Absolument. Et on raconte d'ailleurs des histoires incroyables. On raconte que tel paysan arrive à l'hôpital. À l'époque, les hôpitaux n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux de l'assistance publique
avec actuellement. Avec le bras gauche dans sa main avec droite.
C'est ça. Ah oui. Il portait son bras.
Ouais, ouais.
C'est ça. Mais c'était dramatique.
Oui, c'était pas du Lego ni du mécano, c'était la maladie.
C'était absolument dramatique. Alors on s'est dit, quel saint pourrait nous débarrasser de cette maladie? Parce que c'est l'époque où on pensait que c'était les saints qui étaient les thaumaturges.
Ah,
il n'y avait pas beaucoup de médecins à l'époque. Ouais. Et puis les médecins ne savaient pas grand-chose. Alors il s'est trouvé que... En 1083,
lequel a fait le boulot, donc
les reliques de saint Antoine du désert, dont on parle beaucoup de ces fameuses tentations, mm-hmm. Qui avaient des ennuis avec le diable.
Il était en Égypte,
dans les déserts d'Égypte, au IVe siècle. Les reliques arrivent à l'église paroissiale de la Motte-aux-Bois, dans le Dauphiné. Et on se dit, ce saint qui a affronté le démon avec efficacité, peut-être va-t-il nous guérir. Et voilà qui part que. Un noble est guéri après avoir invoqué le saint, saint Antoine. Alors ce noble crée immédiatement un ordre religieux qu'il appelle les Antonins. ceux qui servent Saint-Antoine, qui vont guérir la maladie.
Et on rebaptise la maladie ?
Alors on rebaptise la maladie parce qu'on s'aperçoit que cette maladie a deux aspects. D'abord, on ne parle plus du feu sacré, mais du feu de Saint-Antoine.
Oui.
Et ensuite, on insiste sur le fait que cette maladie aussi donne des délires. Et que les gens sont très agités quand ils ont la maladie. Et on voit qu'il y a deux formes.
Ça, on peut comprendre.
Une forme gangréneuse, surtout, et puis une forme psychique. Et la forme psychique qui crée des délires de possession, en particulier, parce que les gens pensent qu'ils sont pris par le diable quand ils ont cette maladie, s'appelle le mal des ardents. Parce qu'ils sont agités, ils sont ardents.
Alors comment on l'a fait ? Donc pour arrêter, bon, Saint-Antoine, merci à lui, paix à son âme.
Très efficace.
Très efficace, mais quand même, malgré tout, un peu plus d'observation, de science, de rationalisme, ça s'est passé comment ?
Six siècles. Il a fallu six siècles où on a écrit sur cette maladie les choses les plus extraordinairement tirées par les cheveux, jusqu'à ce que l'abbé Tessier, au XVIIIe siècle, découvre que, effectivement, dans les farines, il y a ce fameux champignon.
Voilà, c'est là que ça
et
se passe.
Il identifie le champignon et il invente la pharmacologie parce qu'il donne le champignon à des poules moulues. Et alors les poules ont des délires extraordinaires, des délires de poules. Elles ont des délires de poules. Elles ont aussi des gangrènes de poules. Et la crête, elle devient toute noire.
Oui.
Alors on a vu que c'était ça. Et à partir de là, l'ergot de seigle entre en pharmacologie et devient, en l'espace, disons, d'un siècle, un des très grands médicaments de la pharmacopée, développé par les laboratoires Sandoz, qui maintenant ne s'appelle plus comme ça.
Non, mais ça veut dire qu'à partir de ce qui était néfaste, on en fait aussi maintenant un plus.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Et c'est un médicament utilisé dans le traitement de la migraine, encore toujours d'ailleurs, utilisé aussi dans les problèmes des organes génitaux féminins, de la ménopause, utilisé aussi comme hypotenseur, donc avec beaucoup d'indications thérapeutiques. Et surtout, il reste aussi l'idée que ces molécules de l'ergot donnaient des délires.
Oui.
Alors, à partir de ces molécules, on a fabriqué le fameux LSD.
Ah.
Et le LSD, c'est le fils moderne de l'ergot.
Mmh.
Et c'est parce que les pauvres gens consommaient ce petit champignon parasite qu'ils avaient les mêmes délires qu'on a quand on est sous LSD.
Ça, c'est pas le bon chemin de l'ergot, quand même.
C'est le mauvais chemin. Mais alors,
oui.
Il y a les deux voies.
Oui.
Alors, quand il y a les deux voies, c'est vraiment le cas de le dire, parce que M. Hoffmann, qui a inventé le LSD, qui a eu 100 ans cette année, qui est en plus un grand protecteur des oiseaux à la Tour du Valat en Camargue, qui a été un grand leader de la pharmacie, il a travaillé sur cette molécule, le LSD, puis il est rentré en vélo, c'était pendant la guerre, en 1943, à Bâle, où il y a une grande industrie chimique. Et puis il a vu que les rails du tramway, il y en avait un qui partait à gauche et l'autre qui partait à droite. Et il ne pouvait plus rouler au milieu des rails parce que les rails partaient des deux côtés. Et quand il a sonné à la porte pour que sa femme lui ouvre, et il a vu un énorme crocodile, mais c'était sa femme. Alors il s'est dit, il y a quelque chose qui allait railler quelque
pas,
part.
Bien sûr, oui.
Alors il s'est demandé,
quelle moquette j'ai fumé.
Qu'est-ce que j'ai bricolé dans la journée ? Alors il est retourné le lendemain dans son labo, il a repris tous les flacons qu'il avait manipulés, puis il a goûté. Le malheureux a eu une crise effroyable, et c'est comme ça qu'on a découvert le LSD. Et alors ils ont eu le grand souci que les Allemands n'en sachent rien pour qu'ils n'en fassent pas une arme chimique. C'est ça l'histoire du LSD. Alors d'un côté, il y a de très bons médicaments, qui sont tous les dérivés de l'ergot et de ses alcaloïdes. Et de l'autre côté, il y a une drogue redoutable, parce que le LSD est vraiment une drogue redoutable.
Tout ceci en partant de l'ergot.
Tout ceci en partant d'une longue histoire de l'ergot qui commence au Moyen-Âge.
Et longue histoire que vous allez pouvoir retrouver dans « Ces plantes que l'on mange » aux éditions du Chêne, signé bien sûr Jean-Marie Pelt, que l'on retrouvera la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
En environnement, c'est comme tout, il faut commencer par des bonnes intentions. Les mettre en pratique, ça c'est autre chose, hein.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Say that you'll stay a little. Don't say bye-bye tonight. Say you'll be mine. Just a little bit of love is worth a moment of.
Que voilà une très jolie balade signée John Legend, c'était Save Room. Je vous propose une autre jolie balade dans les Hautes-Pyrénées, où cela en Bigorre.
Le Val d'Azun en Occitan, c'est la vallée ensoleillée, c'est une vallée où le soleil se baigne toute la journée, c'est un endroit magique.
C'est quand même un des sanctuaires de l'agropastoralisme, ce Val d'Azun, parce que c'est vrai qu'on voit bien tout ce territoire qui est quand même assez jardiné, justement, par les éleveurs que vous êtes.
Effectivement, c'est, les premiers bergers sont arrivés sur les Pyrénées, on nous dit, environ 4000 ans, et ces hommes ont commencé à faire des feux de conquête pour amener leurs troupeaux broutés. Et c'est vrai que quand on regarde bien, qu'on a l'œil un peu aguerri, on s'aperçoit qu'il y a des vestiges pastoraux, mais il y a surtout une vie encore. Quand on regarde bien autour de nous, on voit tout cet espace qui est, comme vous le dites, jardiné, avec des troupeaux partout et des hommes qui entretiennent cet espace.
Il faisait beau, il faisait doux dans ce Val d'Azun, entre 800 mètres, on va dire, et 1500 mètres d'altitude. Et là, les premiers visiteurs qui s'aventurèrent, c'était dans les Pyrénées au 19e siècle, donc qualifièrent ce lieu d'Éden des Pyrénées. Rien que ça, Nathalie, mais oui. Et donc, on est au pied du col du Soulor et de l'Aubisque, donc ensoleillement assez exceptionnel. Alors, ce n'est pas du tout de ces vallées, si vous voulez, encaissées, comme par exemple celle de Luz-Saint-Sauveur, de Cauterets, qui sont... Non, là, c'est ample, c'est large. On est au cœur du Parc national des Pyrénées. Vous avez une architecture qui est bien préservée. Il y a aussi une maîtrise du foncier. Donc, ça aide aussi à éviter quand même pas mal de bêtises. Et c'est là que Robert Arnault, un homme de radio que vous connaissez sur France Inter, donc a posé sa vie depuis pas mal de temps. On va le rencontrer dans quelques instants. l'instant. Et puis l'homme que vous avez entendu, c'est Jean-Pierre Pommiès, qui est à la fois éleveur de brebis, et puis dans ces coins-là, bah, faut pratiquer la pluriactivité. Donc il est aussi guide accompagnateur, il est aussi moniteur de ski de fond. Et là, on va s'intéresser, puisque c'était le plein été, à ces brebis, à ces bêtes. Allez, on est parti dans le Val d'Azun, et on retrouve Robert Arnaud.
Alors nous sommes, oui, dans ce Val d'Azun. Pourquoi le Val ? Ben, Val, la belle vallée. Et d'Azun, parce que c'est une vallée très large. C'est une vallée très belle, comme vous le voyez, très souriante, que l'on appelle d'ailleurs l'Éden des Pyrénées. Ouais. C'est une des plus belles de la chaîne.
Et donc, elle est orientée est-ouest. Ouais. Et c'est un très bel exemple aussi d'agropastoralisme, là.
Ça a été. On ne peut pas dire que maintenant, évidemment, tout ça soit encore bien en place. Les paysans sont de moins en moins nombreux, les éleveurs aussi. Les troupeaux sont de plus en plus petits. C'est difficile, mais c'est un lieu magique, il faut bien le dire.
Et lorsque l'on parle d'environnement dans cette émission, vous le savez Robert, quelle est un peu la caractéristique ? On fait quand même assez attention quand même ici.
C'est qu'on nous fout la paix. Oui. Surtout, vous savez, on a, par tempérament, je crois, on n'aime pas beaucoup tout ce qui vient piétiner nos belles plates-bandes. Quand on a voulu créer, il y a quelques dizaines d'années, le parc national, ça a été très chaud.
C'était en 67.
Oui, on n'en voulait pas du parc national. Et je dois avouer que j'ai été un de ces jeunes cons qui écrivaient sur la route non au parc national. On ne savait pas trop pourquoi. Si, enfin, il y avait des gens qui le savaient. Les pêcheurs, les chasseurs, par exemple, étaient persuadés qu'on allait les empêcher de prendre du poisson ou d'aller chasser l'isard.
Alors qu'en fait, maintenant, tout le monde s'en porte bien et se réclame
oui,
du parc.
Oui, bien sûr. Et puis, bon, les plus réfractaires ont été pris comme gardes du parc.
Oui.
Alors, finalement, non, ça marche très bien. Et c'est très bien comme ça.
Robert, donc on entend là cette eau qui coule. C'est vrai que l'eau est aussi travailleuse ici. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup de coins des Pyrénées, hein, que ce soit là, à Cotteret, ailleurs, enfin à Pierrefitte, l'hydroélectricité a fait aussi cette région.
Croyez pas si bien dire. L'eau est tellement travailleuse ici que si vous étiez venu il y a un mois, vous auriez eu les pieds dans l'eau.
Ah, d'accord, sympa.
C'est-à-dire que tout ce petit ruisseau qui est là derrière nous, ouais, dans notre dos, avait monté de 4 mètres. Tous les petits ruisseaux avaient lâché à la suite de grêles. Ce petit ruisseau, celui qui est derrière le cimetière, là-bas, tout avait lâché. Ici, il y avait 1 mètre d'eau. Tout le village était balayé, avec des troncs d'arbres qui arrivaient et les truites
qui
nageaient au milieu de la boue. C'était étonnant.
Et puis, alors, on est au pied du col du Soulor.
Ah ben, le col du Soulor démarre exactement devant nous.
Eh ben, c'est là. C'est là. Et après, il y avait 8 kilomètres. Ouais. C'est un peu le col du soleil, en tout cas, qui prend le soleil, hein, le Soulor, c'est ça.
Ah oui, c'est le col du soleil, oui. Ben oui, parce que quand il y a du soleil en pleine journée, eh ben, vous avez l'ombre de votre moustache. Hein.
Alors, on est toujours dans le Val d'Azun. On vient de quitter Robert Arnaud en bas à Reims pour rejoindre un homme qui est à la fois guide accompagnateur et puis berger depuis déjà de nombreuses années, bien qu'il ne soit pas très vieux, il a 41 ans. Jean-Pierre Pommiès, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors donc nous sommes effectivement ici dans cette entrée du Val d'Azun. On est sur des terres qui appartiennent à des privés, on est sur une terre communale ici, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, toutes les Pyrénées, effectivement, sont du territoire communal. Ouais. Donc en ce moment, on est juste au-dessus du col du Soulor. Ouais. On est sur des terres qui appartiennent au village d'Arbeos. Arbeos, qui est un petit village en vallée de l'Ouzoum. Ouais. Cette petite vallée pyrénéenne fait partie du Val d'Azun.
Ça veut dire qu'ici, on peut venir avec ses bêtes, à quelles conditions alors ?
Donc on loue un territoire collectif. On est plusieurs éleveurs à louer le même territoire.
D'accord.
Bien entendu, ce territoire n'est pas clôturé. Les bêtes ne connaissent pas les limites. Nous, les hommes, on connaît les limites. Elles sont inscrites sur des cartes. Et donc, on doit tenir les troupeaux sur ce territoire-là qui est communal.
Vous payez quoi ? Une redevance ?
Alors effectivement, on paie une redevance aux communes qui s'appelle la bacade. La bac, en béarnais, c'est la vache. Pour chaque bête, brebis, vaches, juments et même les ruches, puisque les abeilles transhument aussi.
Il y a un tarif.
Vous le savez, ouais. Il y a un tarif. Cette somme, donc les éleveurs, les bergers paient cette redevance aux communes.
Ça fait à peu près 3 à 4 euros pour une brebis.
Voilà.
Ensuite, vous récupérez cette somme avec les subventions que vous avez ou...
Je ne vais pas vous apprendre que le système agricole en France, en Europe, est un système qui est subventionné, que malheureusement les paysans ne vivent pas de nos produits, mais aussi d'aide de l'État. On n'a pas le choix. Donc, environ un an après, l'État français nous rembourse quasiment le prix de la bacade. Et c'est vrai qu'au bout du compte, pour les éleveurs, aller en montagne, c'est gratuit. Je pense que des gens ont compris en France, il y a bien longtemps, qu'il était important qu'il y ait encore du pastoralisme sur les Pyrénées,
oui.
Qu'il y ait des bergers, des troupeaux, pour entretenir cet espace que l'homme a façonné.
Votre âne, vos chiens, votre... Il s'appelle Isard, hein, le chien.
Isard, oui.
Voilà, donc c'est un collet, ça.
Isard est un border collet, ah bah c'est oui. Un chien d'origine écossaise.
Et qui est parfait pour la montagne, avec les labris,
mais vous allez voir, oui. Après, il va travailler sur les vaches, sur les brebis.
Bon, il parle de béarnais, lui, bigourdan, lui, d'abord.
Et bon, il est bilingue, Isard. Il comprend un peu l'anglais, et surtout le béarnais.
Voilà.
Et en Isard, ça y taille, ça y taille. Ça y taille, gauche, d'accord.
Alors Jean-Pierre, ici, en fait, une partie de votre boulot, c'est de bien vous assurer que vos bêtes sont sur la bonne estive.
Oui, effectivement. Le travail, c'est de constater que les bêtes sont bien sur le territoire qui nous est attribué. Mais à ce moment-là, ce n'était pas tout à fait le cas.
Ouais.
Elles étaient en limite de propriété, elles avaient un peu basculé chez le voisin. Donc le travail, là, c'est de les rabattre sur le territoire qui m'est attribué. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, et sagement, mais... On se dirige vers la montagne que je loue.
Parce qu'en fait, tout le monde sait à qui appartient tel troupeau. Vous avez évidemment des jumelles les uns les autres. Et vous veillez à ce que les troupeaux n'enquêtent pas sur le terrain de l'autre. Quoi.
Voilà, comme vous pouvez le voir, les troupeaux sont teoulés. La teoule, en méarnais, c'est la teinte.
Ouais.
Et tous nos troupeaux ont une couleur. En l'occurrence, moi, c'est rouge sur la nuque et bleu sur les fesses. Chaque berger a sa couleur. C'est une couleur que l'on ne quitte jamais, qui se transmet de génération en génération.
C'est votre père, votre grand-père avec cette même teoule.
Voilà, chez nous, on a toujours été teoulés rouge et bleu à cet endroit-là.
Et donc ça, on fait ça en récupérant de la graisse. Alors, on rajoute une petite teinte à l'intérieur.
Mais à l'hiver, on récupère la graisse du confit de porc, d'oie et de canard.
Ah oui, quand même, oui.
Et bon, oui, on mange bien ici. Hein.
Oui.
C'est un pays de victuailles. Et donc, on récupère la graisse... Au printemps, on fait chauffer ça, on y rajoute un colorant, donc ouais. Moi le rouge et le bleu. On laisse refroidir, ça se remet en pâte. Un gant, et on imprègne la laine de rouge et de bleu à un endroit choisi. Isard, ça y est, Yuka, ça y est.
Il y a dans mon jardin un secret, des cailloux blancs, des pierres et des galets. Un banc pour s'asseoir et le principal, le palais idéal du facteur cheval. Comme un poème monté, pierre sur pierre et galet sur galet. Un peu désordre et même un peu bancal, le palais idéal du facteur cheval. Puisque l'homme est fait des rêves qu'il fait, je voudrais bien porter. Fanal, la casquette du facteur cheval. Comme on ajoute aux idées, chacun sa pierre et chacun son galet. J'aimerais laisser ce rêve idéal quand chacun de nous dorme un facteur cheval. Comme un cadeau que l'on fait, le temps d'un rêve ou une virgule au lieu du point final, un peu de la folie du facteur cheval. Puisque l'homme est fait des rêves qu'il fait, je voudrais vous laisser. Oh, oh, ce bleu idéal, la casquette du facteur cheval. quand je serai fatigué de votre monde et ses réalités, je porterai fier comme un amiral la casquette idéale du facteur cheval, puisque l'homme est fait. La casquette du facteur cheval.
C'est pas la chanson la plus connue de Fugain, mais c'est une très jolie balade, La casquette du facteur cheval, qui nous emmenait dans la Drôme, à Haute-Rive. Et nous allons repartir en balade, ou cela, dans les Hautes-Pyrénées. Alors, vous avez à votre main gauche le pic du Midi de Bigorre, vous avez à votre main droite le col d'Aubisque, face à vous le Vigmal et le Gabizos, et au centre, eh ben, vous avez deux hommes heureux qui respirent au milieu de ces brebis, vous les entendez, avec Jean-Pierre Pommiès. Au-dessus de ce Val d'Azun. Jean-Pierre, vos brebis sont de quelle marque? C'est des Gavarnie Barège? Qu'est-ce que c'est?
Eh bien, il y a un peu de tout, effectivement. J'ai des Barège Gavarnie, j'ai quelques berrichonnes, des tarasconnaises, ouais. Et j'ai même 2-3 manèches. La vraie vie laitière du Pays Basque. Et voilà. Je suis marié avec une Basque, donc il a fallu faire quelques concessions.
Bien sûr, bien sûr.
Ça s'imposait.
Et alors donc, évidemment, c'est sonnaille, ce qui fait que ça fait chanter les montagnes. Bon, il y a quand même deux raisons à cela. Il y a bien sûr, s'il y a de la brume, ça permet de localiser un troupeau. Et puis, il y a autre chose que l'on ignore un peu plus.
Et ça sert surtout à rendre un troupeau homogène. Quand les brebis broutent la journée, elles ne se regardent pas forcément, mais elles s'entendent sonner. On met les sonnailles aux meneuses, souvent les anciennes, et c'est elles qui mènent un peu la barque, c'est elles qui mènent le troupeau. Et quand les brebis broutent, elles s'écoutent, et donc les sonnailles servent à rendre le troupeau homogène. En fait.
Elles donnent un peu le tempo, quoi, le rythme du
voilà,
troupeau.
Voilà, mais c'est un peu ça, et elles se suivent en s'écoutant, en fait.
Alors là, on arrive sur ce plateau toujours avec ce Val d'Azun donc à nos pieds. Enfin, on fait partie de ce Val d'Azun, là où nous sommes. On voit des chevaux qui ne sont pas exactement faits pour le décor. Je dirais que c'est très joli pour les touristes. Mais ce n'est pas seulement ça, vous faites de l'élevage là aussi.
Voilà, mais ça aussi, c'est pour la production viande. Ce sont des chevaux lourds, on appelle ça. La quasi-totalité de la production part sur l'Italie. Les Italiens sont de grands consommateurs de viande de chevaline. En France, c'est de moins en moins le cas. Mais bon, ici, on consomme aussi.
Là, c'est quand même assez saisissant parce qu'on arrive à quelques mètres face à une carcasse de cheval. Qu'est-ce qui lui est arrivé?
Mais c'est une jument qui a été foudroyée il y a 5 semaines de ça. Ouais. Apparemment, les chevaux ne sont pas au courant que quand il y a un orage en montagne, il faut quitter les points hauts, là où la foudre peut taper. Donc cette jument s'est faite foudroyer.
On voit déjà le travail qui a été effectué. On se doute bien que ce n'est pas par les hommes. C'est drôlement nettoyé. Et heureusement qu'il y a ces planeurs incroyables là, qui sont un peu au-dessus de nos têtes, on en voit un ou deux, et qui sont les vautours.
Mais bon, effectivement, quand une bête meurt chez un paysan en France, il téléphone à la société d'écarissage. Ici en haut, le camion de la société d'écarissage ne peut pas monter, et le vautour est l'écarisseur et le nettoyeur de la montagne.
Jean-Pierre, est-ce qu'aujourd'hui il y a un déséquilibre qui s'est créé? Je veux dire par là que bon, ces charognards font leur boulot, ce sont les éboueurs de la nature, ils sont tout à fait indispensables. Et est-ce qu'ils ne mangent que des bêtes mortes? Parce qu'on a toujours dit que ce sont des charognards, donc ils mangent que des bêtes mortes.
Cet animal a été en voie de disparition dans les années 60-70. Il a été protégé. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la population est remontée à vive allure. Il y a beaucoup de vautours aujourd'hui en montagne et c'est vrai qu'on constate désormais que apparemment cet animal a faim et désormais cet animal attaque des animaux domestiques en vie. Alors attention à la nuance, en vie, mais en difficulté. C'est-à-dire une jument, une vache, une brebis en bonne santé ne va pas se laisser manger par les vautours. Ouais. Ils ne vont pas essayer de la manger, d'ailleurs.
Il faut que ce soit une bête déjà faible. Hein.
Voilà, ouais, une bête affaiblie, une bête malade, une bête qui m'ébat. Alors ça, on le constate fréquemment sur les naissances. Une jument qui pouline, une vache qui vèle. Souvent, la bête peut être attaquée et les vautours dévorent le petit et la mère.
Et alors là, on est sur ce mamelon de montagne avec de la calune.
C'est de la calune, effectivement. Hein. Il y a beaucoup de calune, genévrier, des myrtillers. Mais voilà, c'est
ça
la lande.
Ça fait de la bonne viande, ça. Hein,
parce que... Oui. Mais vous savez, ici, sur cet endroit-là, les bergers, on dit que la montagne est un peu sale. Nous, quand il y a beaucoup de calune, genévrier et myrtiller et rhododendron, on appelle ça la lande et on dit que la lande prolifère, la lande envahit les pelouses. D'accord. Et pour nous, bergers, c'est signe que la montagne n'est pas en très très bonne santé et que la montagne n'est pas suffisamment entretenue par les hommes et leurs troupeaux, certainement parce qu'on est de moins en moins sur le territoire et que l'on pratique de moins en moins cette pratique ancestrale qu'est l'écobuage. Qui est de brûler cette lande qui prolifère sur nos pelouses.
Ça, il faut savoir le faire, hein, parce qu'il y a aussi des dégâts avec l'écobuage qui parfois n'en sont pas complètement. Hein, donc,
voilà, il faut le maîtriser. C'est une pratique ancestrale qui est aujourd'hui encadrée par l'État. Et il y a des demandes à faire, il y a certaines zones à brûler, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Hein. Tiens, Denis, ici, on va voir une fleur que j'aime bien raconter, moi. Hein.
Oui.
C'est la plante préférée des brebis. On appelle ça le trèfle alpin. Alors tu vois, c'est une petite fleur rose.
Ouais.
Et alors les brebis aiment brouter cette petite fleur. Mais ce qu'elles raffolent surtout, c'est les feuilles. Alors c'est une plante qui rampe, comme tu le vois, ça fait un petit tapis. Contrairement aux vaches et aux juments, les brebis, elles aiment quand l'herbe est très très rase.
Ouais.
Et cette plante-là, elles en raffolent. Alors cette plante-là, on peut même la goûter. La montagne, il faut la goûter aussi. Hein. Il ne faut pas que la contempler, il faut la toucher, il faut la goûter. Et quand on mastique un peu cette racine...
Vas-y, fais voir ça.
À quoi ça te fait penser, Denis, ça? Je suis sûr que tu connais ça. Quand tu étais petit, tu devais en manger.
J'avais peut-être pas mangé assez quand j'étais minot, mais ça doit avoir un petit coup de réglisse, ce truc-là.
Goût très fort de réglisse. Ouais. Donc les brebis en raffolent et les bergers... Quand ils vendent leur fromage de montagne, ou même la viande d'agneau élevée en montagne, souvent on dit que dans le fromage, il faut fermer les yeux, il faut y croire un peu, mais qu'on trouve un petit goût de réglisse. Et dans la viande de nos broutards élevés en montagne, on trouve aussi un petit goût de réglisse. C'est la plante préférée des brebis.
Bon Jean-Pierre, à bientôt, et puis continuez votre virée avec vos bêtes dans le Val d'Azun.
Bon, écoute, merci. Denis, j'espère que ça t'a plu, cette petite balade dans nos montagnes, dans le Val d'Azun. Donc là, tu prends ce petit sentier, il te mène au col du Soulor, il n'y a pas de problème, tu peux pas te tromper.
Allez.
Et bonne suite. Et
qu'est-ce qu'on se dit?
Et bon adieu et à balleu.
Salut. Je ne suis pas trompé puisque je suis de nouveau avec vous. Et oui, alors je vais remercier Patrick Henry et Xavier Pestugia parce qu'ils ont réalisé et mixé ce reportage.
Oui, mais Denis, je ne sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose.
Alors, il manque, si vous voulez, un animal sympathique et en plus pour les enfants qui fait un peu de dégâts. Un nounours. Alors, en fait, France K était dans les parages à l'époque et c'est vrai qu'elle s'est fait un petit méchoui avec une ou deux brebis. C'est très clair. Elle devait nous écouter. Elle était à peu près à 800 mètres ou 1 km à vol d'oiseau. J'ai fait une séquence complète sur l'ours. Et donc, effectivement, le jour où on va faire une émission plus élaborée, on va dire, sur l'ours, là, on entendra de nouveau l'avis de ce berger. On se doute bien qu'il n'est pas vraiment, vraiment un pro-ours, mais il écoute. Il écoute aussi les deux parties et il a quelques arguments tout à fait intéressants. Alors, chère Nathalie, puisque vous êtes là, puisque vous avez attendu patiemment, c'est très bien, tranquillement, avec l'air de ces Hautes-Pyrénées, nous passons à l'actualité de l'environnement.
Oui, alors j'ai une question à vous poser.
Je vous en prie.
Je suppose tout de même que vous avez déjà envoyé votre liste au Père Noël.
Ah oui, bien sûr, ça y est, c'est fait. Moi j'ai commandé un écran plat, voyez. Alors je sais que ça consomme un peu plus, hein, c'est pas... mais j'ai commandé un écran plat.
Oui, puis ça m'étonne un petit peu parce que vous n'aviez pas de télévision.
Si.
Ah bon? Alors elle fonctionne plus?
Si.
Eh bien alors pourquoi vous en changez?
Ah oui, d'accord. Bah, oui, c'est peut-être ce genre de conversation que
oui,
l'on a régulièrement.
Hein. Que l'on peut et que l'on devrait avoir si l'on se posait la question de la conso durable.
Conso pour consommation.
Oui, et Noël, c'est peut-être une bonne occasion d'échapper à l'avalanche de cadeaux qui ne sont pas toujours indispensables. Alors, pourquoi ne pas opter pour le cadeau dématérialisé, hein? Vous savez, par exemple, c'est le chèque cadeau, c'est le billet de cinéma, c'est l'abonnement numérique ou un bon pour 10 massages. Tenez, je vous l'offre,
bien sûr,
bon pour 10 massages.
Oui,
et tout ça permet aussi d'éviter les emballages superflus.
Alors, si malgré tout vous devez emballer un objet, Nathalie?
Par pitié, évitez les paquets cadeaux métallisés ou plastifiés, puisque vous savez que ceux-là ne sont pas recyclables. Et puis, franchement, posez-vous la question.
Oui.
Est-ce que ce téléphone stylo lampadaire presse-purée MP3 est vraiment nécessaire à mon bonheur? Vous avez remarqué qu'une fois déballés, les gadgets ont une attirance pour le fond des placards. C'est incroyable.
Le voir directement pour les poubelles ou pas loin. Alors, autre interrogation, le fonctionnement des appareils.
Oui, certains ont tout de même la capacité de rendre la clientèle captive. Hein. Exemple, les machines à café expresso, c'est vraiment la mode en ce moment, qui fonctionnent avec des, on va dire, des capsules.
C'est ça.
Alors, bon, à chaque marque de machine à café, son type de capsule, donc de qualité de café, pas question d'en changer, sans compter évidemment les déchets. Un café, une capsule, à la poubelle.
D'accord, et si vous faites le calcul, d'ailleurs, c'est pas tellement rentable, loin de là. En plus, évidemment, des problèmes écologiques. À usage égal aussi, préférons les appareils qui fonctionnent à l'énergie solaire. Il y en a de plus en plus.
Oui, il y en a de plus en plus. En même temps, ce n'est pas toujours évident.
Non,
en, tout cas, en tout cas, oui, surtout la nuit. Ouais. En tout cas, évitez les piles. Ou alors, préférez en tout cas les piles rechargeables. On a calculé qu'un foyer français possédait, en moyenne, évidemment, c'est une moyenne, 25 appareils à piles. Et malgré le recyclage aujourd'hui obligatoire, 2 piles sur 3 finissent encore à la poubelle. Alors, les piles rechargeables, moi j'en ai, ça marche très bien.
À table maintenant, Nathalie, à table!
Oui, alors le repas de réveillon, évidemment, ça mérite autre chose qu'une nappe en papier, des assiettes et des couverts
Qu'est-ce
jetables.
Qu'est-ce que c'est, ces saloperies? Faites-moi quelque chose de bien. Et le foie gras dans une belle assiette en porcelaine, c'est quand même plus sympathique.
Et oui, et rappelez-vous aussi que le repas écologique, c'est aussi celui qui cuisine des produits de saison.
Oui.
Pas de fruits exotiques venus de l'autre bout du monde, des fraises en décembre. Eh bien, ça revient à consommer près de 5 litres de pétrole brûlé pendant le transport. Et figurez-vous que cette question-là, eh bien, elle commence à émerger dans les consciences. Elle est même mise en musique dans un spectacle destiné aux enfants.
Ah ouais, je sens que vous allez nous parler des loupiots et de leur dernier spectacle. C'est très bien.
Ça s'appelle La légende des 1001 plumes. C'est un spectacle pour enfants qui met l'écologie et le développement durable en musique. Écoutez par exemple la chanson « Quelle salade ».
Excusez-moi, je vous en prie, je suis enfant et j'aime la vie. J'ai entendu votre chagrin, je veux changer vos lendemains. J'attendrai les mois d'été pour tendrement vous déguster. Je respecterai vos saisons, bonjour soleil, fini la vie.
Merci, merci,
bravo l'enfant.
Alors là, c'est formidable parce que vraiment, on jardine l'esprit des enfants. Et quand ils sont petits, c'est eux qui auront donc les bons réflexes, hein, Nathalie, plus
tard. Et oui, c'est à cet âge-là qu'il faut les convaincre.
Qu'est-ce que c'est bien. Donc, c'est les loupiots. Où est-ce qu'on peut les voir, les loupiots?
Au Théâtre des Variétés, à Paris, jusqu'au 14 janvier. Et puis, bon, pour les spectacles ensuite, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Les loupiots, tout attaché avec un S.com.
Vous retrouvez ceci sur le site, sur le site, oui, absolument, de CO2, mon amour. 01 42 20 40 40.
Oui, bonjour Denis Chessou, c'est Aurelio. Je voulais, par ce message, porter à votre connaissance une découverte de réglementation locale quant à l'utilisation de panneaux solaires thermiques. Donc c'est sur une commune près de la forêt de Rambouillet, donc le Père-en-Yvelines. J'ai un projet de rénovation qui est basé sur une idée assez écologique, utilisation d'énergie renouvelable avec pompe à chaleur, avec utilisation de panneaux solaires thermiques. Et j'ai découvert à la mise en place de ce projet-là une réglementation locale qui indique que les panneaux solaires ne doivent pas être visibles de la rue. Bon, heureusement pour moi, les panneaux solaires sont installés au sud et la rue est au nord. Donc, j'ai de la chance, je peux installer mes panneaux solaires. Mais si ça avait été le contraire, comment je faisais? J'aurais pas pu être conforme à la réglementation locale. Ce qui est important, c'est que dans ces cas-là, il faudrait que les réglementations se mettent un peu en adéquation avec les nouvelles exigences environnementales. Donc, bon soleil et bon vent à CE2, mon amour. À bientôt. Au revoir, Denis Chessou.
Merci à vous. Et dans de très nombreux cas, que ce soit au niveau de l'État, des collectivités, bah, on est toujours un peu schizophrène. Quoi. C'est-à-dire, ouais. On dit une chose d'un côté, puis de l'autre, on ne les fait pas. On ne les fait surtout pas. Il est toujours d'attendre.
Mais ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer. C'est vrai.
Alors, Nathalie, nous nous sommes plusieurs fois étonnés dans cette émission, voire émus de cette utilisation abusive d'arguments écologiques à des fins publicitaires.
Ouf, on n'est plus tout seul. Ouais. L'association L'Alliance pour la Planète vient d'épingler les fausses publicités vertes sur son site internet, l'alliance.fr. Avec cet avertissement, la publicité peut nuire gravement à l'environnement. Pourquoi ? Réponse de Séverine Millet.
C'est une trentaine de publicités que nous avons choisies parce qu'on estime qu'elles sont emblématiques dans leur manière d'abuser de l'argument écologique. Alors l'argument écologique, c'est très simple, c'est lorsqu'on montre dans une publicité qu'un produit, un service ou une entreprise est écologique, protège l'environnement, respecte les valeurs de développement durable, alors que ce n'est simplement pas vrai. Soit pas vrai dans la totalité, soit parce que le produit a effectivement une petite caractéristique écologique, mais que le bilan global véritable du produit au final ne l'est absolument pas.
Nathalie, quelques exemples.
Areva. Qui vante le fait que l'énergie nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Mmh. Je cite le message, « Nos énergies ont de l'avenir, un avenir sans CO2 ».
Il n'est alors pas très très vert ce message ?
Et non, parce qu'il se focalise sur un aspect seulement de l'environnement et omet d'autres problèmes, comme juste hein, comme ça en passant, hein, la production des déchets radioactifs.
C'est pas très très vendeur. Autre exemple, EDF.
Je cite le message. Pour préparer l'avenir, nous mettrons en service dès 2012 la nouvelle génération de centrales nucléaires, l'EPR. Oui. Point à la ligne EDF, virgule, leader européen des énergies de demain. Or donc, sans le nucléaire, point de salut. Alors qu'il existe d'autres sources d'énergie, vous le savez, ça, Denis. Là, le nucléaire est placé en situation de supériorité.
Parlons d'essence et Total.
Pour vous, notre énergie est inépuisable, dit la pub. Alors évidemment, on peut y entendre un jeu de mots. Hein. L'énergie en question, c'est probablement et sûrement d'ailleurs celle des salariés de Total. Mais tout de même, la référence quand même, c'est le pétrole, énergie fossile qui, comme vous le savez, n'est pas inépuisable.
Alors que les biocarburants, c'est bien connu. Si, bien sûr.
Sauf que le préfixe bio, utilisé à toutes les sauces, agace également les associations. Alors vous parlez de biocarburants. Elle préfère parler d'agrocarburant ou encore de carburant agrochimique. À ce propos, d'ailleurs, les agriculteurs commencent à s'énerver un peu parce qu'ils voient dans le développement des biocarburants, enfin des carburants agrochimiques, on va dire, une formidable opportunité. Mais ils se sentent un peu attaqués de partout. Ah. Alors là, ils ont décidé de répondre. Écoutez le président des jeunes agriculteurs, Philippe Meurs.
Pour l'environnement, il y a quand même des vrais enjeux au niveau bilan carbone, au niveau bilan environnemental. L'utilisation d'éthanol ou de diester permet de réduire considérablement, et c'est de 800 000 tonnes de carbone qui sont en moins dans l'atmosphère grâce à l'utilisation de biocarburants.
Sauf que c'est de l'agriculture intensive et donc polluante.
Non, moi je ne partage pas parce qu'aujourd'hui, on a réduit en 6 ans d'un tiers l'utilisation des produits phytosanitaires et des intrants globalement. Il faut bien avoir conscience que quand on utilise des produits phytosanitaires, on les utilise comme un médicament. Aujourd'hui, on les utilise comme quand on soigne une grippe ou autre chose. Et on les utilise à des bons moments, à des bonnes doses. Le coût des phytos et des intrants aujourd'hui sont suffisamment élevés pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec. Donc aujourd'hui, on a des notices, ça correspond à une ordonnance du médecin, pour utiliser les produits phytosanitaires qui sont homologués. C'est des produits qui sont homologués, donc à des moments, à des doses précises. Donc on fait sincèrement, on ne fait pas n'importe quoi. Et au contraire, ça nous permet quand même d'avoir des produits sains pour mettre sur le marché, aussi bien sur l'alimentaire que sur le non-alimentaire.
En tout cas, ces agrocarburants, on va dire que c'est un véritable problème de politique agricole et ensuite, éventuellement, un problème environnemental. Nathalie, nous avons un autre message. Allez, 01 42 20 40 40, oui.
Bonjour Denis Chessou, je suis Claude en voiture, un Ariégeois. J'ai écouté votre émission d'aujourd'hui. J'ai une question à poser d'abord. Vous dites mettez un hérisson dans votre jardin pour combattre les limaces. Oui. Et comment est-ce qu'on peut trouver un hérisson quand il n'y en a pas naturellement? Je crois que pour tout ce qui est de l'environnement, vous devriez vous-même lire, si vous ne l'avez pas fait encore, le livre de David Suzuki, L'équilibre sacré. Et après l'avoir lu, éventuellement, je pense, conseiller sur les ondes à beaucoup de gens de le lire. C'est un écologiste canadien qui fait de l'écologie philosophique par le haut et qui vous ouvre les yeux sur bien des questions et qui, à la limite, permettrait de résoudre peut-être beaucoup de problèmes à la racine et non pas après qu'il soit arrivé. Je vous remercie. Bonne journée, bon week-end et merci pour vos émissions.
Merci à vous. Alors, en ce qui concerne les hérissons, tout de suite, on va rappeler que c'est une espèce protégée, donc on ne va pas le transporter. Alors, ça s'adapte assez facilement dans un jardin. Ils viennent tout seuls. Voilà. Non, mais il faut peut-être favoriser leur vie. C'est-à-dire que là, en ce moment, il est en train d'hiberner.
Ça fait pas longtemps qu'il s'est endormi, parce qu'avec les températures qu'il y avait, non, il a continué. Il s'est dit, oulala, je vais en profiter pour aller croquer encore quelques limaces et des choses comme ça, parce qu'il fait, on a eu un automne absolument incroyable.
Mais alors, pour les faire venir, il faut quand même un abri tranquille que vous devez lui installer, du bois ou des feuilles.
Ça dépend vraiment de la configuration de votre jardin. Et sincèrement, si vous avez un tas de bois au fond du pré, il vient tout seul.
Tout seul
comme très bien. Il se fait son petit abri tranquillement sous le tas de bois. Il se débrouille tout seul. Il décore son appartement.
Alors pensez quand même. Oui, très bien. mais pensez quand même à faire des passages entre deux jardins.
C'est important.
Parce qu'il faut quand même que ça puisse passer. Il ne faut pas que ça débouche sur une route nationale, évidemment, derrière. C'est pas plus mal. Voilà, en tout cas, vous verrez, c'est une bestiole tout à fait sympathique. Ah, autre sujet. Quand les usines Seveso s'alignent sur le nucléaire, elles adoptent une échelle des incidents et accidents, Nathalie.
Oui, vous savez, pour le nucléaire, l'échelle s'appelle l'échelle INES, elle va de 1 à 7. Et là, les industries Seveso, donc chimie, pétrochimie, etc., ont décidé d'adopter eux-mêmes une échelle avec une promesse, au moindre pépin, nous allons avertir les riverains. Alors l'enjeu pour les industriels, évidemment, c'est de jouer la transparence et puis surtout de combattre un peu et la mauvaise image et la suspicion des gens qui habitent autour des usines en question, parce que rien n'est plus inquiétant, évidemment, de s'apercevoir qu'il se passe quelque chose, j'en suis sûr, il y a quelque chose d'anormal, mais je n'ai pas d'informations sur le degré de gravité de l'incident. Alors, promis juré, dit le président de l'Union des industries chimiques, ça n'arrivera plus, Jean Pelin.
Il s'agit d'un outil de communication à chaud, c'est-à-dire dans la journée, pour informer de façon harmonisée donc le public et les communautés locales, les associations, sur la gravité relative des incidents généralement mineurs qui se passent dans les usines de notre secteur industriel. L'échelle va de 1 à 6, 1 étant donc un incident mineur et 6 un incident majeur. Alors un incident mineur, c'est par exemple une torche dans une raffinerie qui est, je dirais, visible alors que d'habitude elle n'est pas allumée. C'est une odeur qu'on peut percevoir autour d'un site chimique de façon inappropriée par rapport à l'habitude. Voilà le type d'incident qu'on peut constater et pour lesquels il est, je crois, parfaitement légitime que de façon harmonisée, les industriels communiquent en décrivant la gravité plus ou moins élevé de cet incident.
Dormez en paix, bonne journée. Merci beaucoup, Jean-Nathalie Fentrel.
À bientôt.
Très très vite. L'année prochaine, vous serez par là.
Joyeux Noël.
Oui, à tous.
On peut le dire maintenant.
On peut le dire. À la technique, il y avait aujourd'hui Henri Bérec. Merci à Jean-Baptiste Audibert, Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission. Possibilité pour vous de la réécouter pendant 4 semaines et de l'enregistrer pendant une semaine. Les sites, les liens sont signés Anne Bouzon sur le site de CO2 Mon Amour. Et la semaine prochaine, Jean-Marie Pelt nous emmènera au pays des herbes sauvages dans la cuisine. Nous parlerons du recyclage des piles, des téléphones portables et aussi, attention, des elfes et des lutins qui sont les meilleurs alliés de l'environnement avec Pierre Dubois. Je vous souhaite un excellent week-end. Denis Chessou, au revoir à tous.
À la semaine prochaine, Denis Chessou.